chapitre 5, versets 1 à 5, 1 à 6 plutôt. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Se mettre sous le joug de la loi ou se faire circoncire et reconnaître par là l'obligation d'obéir à la loi, sépare le chrétien de Christ et le prive du salut. La grâce est accordée sur la base d'une foi qui est agissante par l'amour et non sur la base de la circoncision ou de la loi mosaïque. Il dit au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous savez, ailleurs dans le Nouveau Testament, très souvent, quand vous voyez le terme « liberté » ou « libre », dans le contexte, on parle d'être libéré du péché. Jésus, quand il dit « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », c'est dans le contexte, il parle même d'être libre du péché. Mais dans le contexte de l'Épître aux Galates, c'est la liberté vis-à-vis de la loi juive, la loi de Moïse. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Encore, c'est le message central sur lequel il insiste depuis le début. Ne retournez pas. Ou bien, dans leur cas, puisqu'ils n'avaient pas été juifs au départ, ne vous mettez pas sous la loi. Vous n'avez pas besoin, elle ne va pas vous sauver. Maintenant, là, ça dit verset 1, mais en fait, c'est chapitre 5, verset 2. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'est-à-dire, si vous vous faites circoncire, parce que vous croyez que la circoncision et l'observance de la loi sont nécessaires pour votre salut, Christ ne vous servira de rien. C'est aussi fort que cela. Bon, cela ne veut pas dire que si on se fait circoncire ou si on circoncise son enfant, peut-être pour des raisons d'hygiène, que c'est un péché. Non. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a une forme de cancer qui est 100 fois plus fréquent parmi les hommes non circoncis. Ce n'est pas, peut-être pas pour rien que Dieu avait ordonné cela aux Juifs. Ça les protégeait de cela. Même les maladies sexuellement transmissibles sont 6 fois plus fréquentes parmi ceux qui ne sont pas circoncis. Okay. Donc, on n'est pas en train de parler de cela, c'est autre chose. Dans le contexte, nous sommes en train de parler de se faire circoncire parce qu'on croit que c'est une obligation morale devant Dieu par rapport à la loi. Surtout, c'est l'idée que la loi est en vigueur, la loi commande la circoncision, donc je me fais circoncire. C'est ça surtout le raisonnement. Mais Paul dit que si vous faites cela, vous êtes tenu de pratiquer la loi tout entière. Encore, si la raison pour laquelle vous vous faites circoncire, c'est parce que vous croyez que la loi est en vigueur, ben c'est que la loi est en vigueur. Pratiquez-la. Mais vous n'avez pas le droit de trier et de choisir les parties de la loi qui vous arrangent. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. La circoncision, là, il n'y a pas trop qui insiste dessus aujourd'hui. Les instruments de musique, Quand on est, combien de fois j'ai entendu des gens justifier l'emploi d'instruments de musique parce que ben, David les employait, ou bien c'était employé dans le temple. Oui, d'accord. Mais ils vivaient sous l'ancienne loi. Si vous allez employer des instruments parce que les psaumes les emploient, est-ce que vous allez aussi offrir des boucs et des taureaux, puisque les psaumes parlent aussi de sacrifier des boucs et des taureaux sur l'autel? OK? C'est mentionné dans les psaumes parce que les psaumes ont été écrits pendant que l'ancienne loi était en vigueur. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est un argument à ne pas employer, à moins que vous voulez tout mettre en pratique de la loi. OK? Trouvez-moi un autre argument pour justifier vos instruments de musique, mais pour moi, ça ne passera pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas d'argument, je veux de passage biblique. Et je sais que dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas en trouver. OK. Pardon? Oui, mais il n'est pas question de savoir qu'est-ce que Dieu n'a pas interdit. Est-ce que Dieu a interdit du poisson et du riz dans le repas du Seigneur? Ben non. Mais est-ce qu'il a précisé quelque chose pour le repas du Seigneur? Oui, bon, du pain et du fruit de la vigne. Donc, nous employons ce qu'il a demandé. S'il avait dit, faites un repas et employez de la nourriture. Bon, on serait libre d'employer ce qu'on voulait, mais puisqu'il y a un choix indiqué, on utilise ce qu'il a indiqué. Bon, s'il avait dit faire de la musique, on serait libre de faire toutes sortes de musique, mais du moment où il parle chaque fois d'une sorte de musique particulière, la musique vocale, c'est ce que nous pouvons faire avec confiance, sachant que Dieu a demandé ça, ça lui plaît. Si nous allons en dehors de ce qu'il a demandé, nous n'avons plus cette assurance que ça lui est agréable. Alors que le but de l'adoration, c'est de plaire à Dieu, ce n'est pas de nous plaire à nous-mêmes, ou de plaire à nos visiteurs potentiels. C'est de plaire à Dieu. Donc, c'est très simple. Dans le Nouveau Testament, on parle de chanter. Nous pouvons tous chanter. Ça ne doit causer un problème de conscience pour personne. Mais si on veut faire quelque chose qui n'est pas autorisé quelque part dans les Écritures, ben, nous avons beaucoup de problèmes maintenant parce qu'il y a plein d'autres pratiques que nous n'allons pas trouver un passage qui les interdit explicitement. Mais ils ne sont pas autorisés non plus. OK. Je dois répéter la question, et puisque je ne peux pas retenir tout cela, tu as commencé en disant Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a plu à Dieu dans le passé, pourquoi est-ce que cela ne lui plairait pas aujourd'hui? C'est l'essentiel, n'est-ce pas? OK. Bon, par ce raisonnement, on devrait ramener dans le culte chrétien tout ce qui était fait pour adorer Dieu dans l'Ancien Testament. Non seulement les instruments de musique, mais l'encens, les habits, les soutanes, des prêtres, tout. On doit allumer des lampes, on doit mettre des pains sur la table de proposition, offrir des sacrifices et tout. Nous sommes sous... Bon, regardez rapidement dans Hébreux, chapitre... chapitre 9, si je ne me trompe pas. Oui, Hébreux 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table, les pains de proposition, ainsi de suite. Et il décrit donc le lieu de culte et ce qui devait se faire, ce qui ne devait pas se faire. Mais il dit que, verset 9, c'était une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Les ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre étaient des ordonnances imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'était temporaire. Okay? Ça représentait des choses, peut-être. Par exemple, l'encens, la fumée qui montait, représentait les prières qui montent vers Dieu. Mais je pense à le cas de Moïse, à qui Dieu a dit de frapper le rocher pour que l'eau en sorte, pour que le peuple ait de quoi boire. Plus tard, il y avait encore besoin d'eau. Et cette fois-ci, comme nous le savons, Dieu a dit de parler au rocher. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé le rocher encore. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher et Dieu n'en a pas été content. À cause de sa désobéissance, parce que c'était une désobéissance, il n'a pas pu entrer dans le pays promis. Mais il aurait pu dire, oui Dieu, mais la dernière fois tu as dit de frapper le rocher, la première fois tu as dit de jouer des instruments, et Dieu, tu ne m'as pas dit de ne pas frapper le rocher. Tu n'as pas dit de ne pas jouer des instruments. Non, c'est simple. Je t'ai dit de parler au rocher. Parle au rocher, c'est tout. Le Nouveau Testament nous dit de chanter. Chantons, c'est simple. Oui. Ne cherchons pas loin. Faisons ce qui est écrit, c'est tout. OK, bon. Encore, pour tenir de pratiquer la loi tout entière, instrument de musique, en sens. Il y a des églises qui brûlent de l'encens aujourd'hui. Pourquoi? Bon, on trouve ça dans l'Ancien Testament. La dîme, ah là, c'est populaire. Combien d'églises exigent la dîme? Mais c'est écrit partout dans l'Ancien Testament qu'on doit donner la dîme. Bon, si les chrétiens sont obligés de donner la dîme, et moi, je ne suis pas contre l'idée de donner au moins 10% de ce que Dieu vous donne. Moi, j'essaie de le faire, j'ai toujours essayé de le faire, j'encourage cela. Mais je n'enseigne pas cela comme un devoir légal, comme c'était sous la loi de Moïse. Et si je le faisais, ben, je serais obligé, selon Paul, de pratiquer toute la loi, parce que je n'ai pas le droit de choisir. Okay? Le sabbat, même chose, les lois alimentaires, il y a des églises qui veulent pratiquer cela ou imposer cela, mais non. Soit la loi est en vigueur, soit elle n'est pas en vigueur. Vous n'avez pas le droit d'aller puiser les choses qui vous plaisent et les amener dans le christianisme. Ce n'est pas comme ça que ça devait marcher. OK. Maintenant, il dit au verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ça fait peur. Je pense que les Galates n'avaient pas consciemment abandonné leur foi en Jésus. Non. Mais c'était la conséquence de la doctrine des judaïsants. Puisqu'on vous apprend à compter sur la loi de Moïse pour vous sauver, c'est que Christ ne peut plus vous sauver. Vous devez compter sur lui, vous ne pouvez pas compter sur la loi de Moïse. Et donc vous êtes séparés de lui. En ce qui vous concerne, il aurait pu ne pas venir. Vous êtes déchus de la grâce. Si vous n'avez jamais parlé avec ceux qui croient qu'une personne, une fois sauvée, ne peut pas être perdue, vous avez peut-être entendu que si quelqu'un rechute et meurt dans cet état, c'est que la personne n'avait pas vraiment été sauvée. Parce que si la personne avait vraiment été sauvée, Dieu ferait forcément que la personne revienne à lui avant de mourir, parce que si tu as été sauvé, tu ne peux plus vraiment être perdu. C'est faux. C'est faux. Et il y a plein de passages qui montrent cela, mais ici, c'est l'un des plus forts. Le mot « déchoir » ne pourrait s'appliquer à celui qui n'avait jamais joué de la grâce. Tu ne peux pas déchoir de la grâce si tu n'as jamais eu la grâce ou tu n'as jamais été dans la grâce. Et les Galates, Paul dit que vous avez reçu l'Esprit. Comment est-ce que vous l'avez reçu? Vous avez revêtu Christ. Vous êtes fils de Dieu. Vous avez été connu de Dieu. Dieu vous reconnaît. Vous avez été affranchi. Comment est-ce qu'on pourrait dire que les Galates n'avaient jamais été sauvés? Impossible. Ils avaient été sauvés, mais maintenant, une fausse doctrine va leur enlever ce salut, s'ils acceptent. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi, donc, non pas la loi, que nous attendons par l'Esprit, l'Esprit qui nous aide à rester fidèles. Nous attendons l'espérance de la justice. C'est-à-dire, on est juste, mais ici, il est en train de penser à quelque chose à l'avenir. C'est le fait d'être déclaré juste au dernier jour. Donc, c'est par la foi que nous attendons cela. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. C'est la seule sorte de foi qui sauve. Il n'y a pas de conflit avec Jacques. Jacques aussi dit la même chose, qu'une foi qui ne se manifeste pas dans l'obéissance à Dieu ne peut pas vous sauver. Une foi qui est simplement intellectuelle, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Il veut une foi qui te pousse à lui obéir, avec amour d'ailleurs. Jacques dit que les démons croient aussi, n'est-ce pas? Mais on pourrait dire que quand Jésus donnait un ordre aux démons, ils obéissaient aussi, mais ils n'avaient pas d'amour. Alors ici, il dit que c'est la foi qui est agissante par l'amour. Il faut la foi, il faut l'obéissance, il faut aussi l'amour. Paul dit que si j'ai toute la foi, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc il faut l'amour aussi. OK, versets 7 à 12, chapitre 5 toujours. « Vous courriez bien. » Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, donc ça ne vient pas de Dieu. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Donc, en gros, les faux docteurs qui détournent les Galates de la vérité devaient être rejetés. Un peu de levain. Bon, le levain, 9 fois sur 10 dans le Nouveau Testament, quand on voit une référence au levain, c'est une influence négative qui s'exerce sans qu'on ne s'en rende compte et qui finit par contaminer toute une communauté. Okay? Et ici, comme en Matthieu 16, où Jésus parle de la doctrine des pharisiens, c'est un enseignement dangereux qu'il identifie comme un peu de levain. Il ne faut pas le prendre à la légère parce que l'action du levain, ça continue. Si je prêche encore la circoncision, Paul, qui a dit que tu prêchais la circoncision? Peut-être qu'il y avait en Galatie certains qui disaient que non, même Paul, il est d'accord avec la circoncision. Est-ce que vous ne savez pas que c'est Paul qui a fait circoncire Timothée? OK. Nous avons déjà parlé de cela, pourquoi Paul a fait circoncire Timothée, mais il pose la question, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Donc, non, ne croyez pas cela. Si on vous dit que moi je prêche la circoncision, ce n'est pas cela. Maintenant, verset 12. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Le français courant, je pense, la colombe emploie le mot mutilé. Ils ont été, et d'autres peut-être emploient même le mot castré. Ça, ils ont été influencés par Chrysostome, qui au 4e siècle a interprété cette phrase de Paul de cette façon. Ce n'est pas vraiment ce que le mot signifie, forcément. Littéralement, ça veut dire retranché. Puisqu'il être retranché, et je pense qu'une interprétation un peu plus raisonnable, c'est que puisse-t-il être ôté du milieu de vous. C'est ainsi que le mot était souvent employé dans l'Ancien Testament, que quelqu'un devait être retranché s'il commettait telle ou telle chose, c'est-à-dire qu'il est exclu du peuple. Ok, versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ok, à partir de ces versets, c'est côté pratique, mais c'est l'idée que être libéré de l'observance de la loi de Moïse n'égale pas le rejet de toute loi morale. Non, il y a toujours un comportement qui plaît à Dieu et des comportements qui ne lui plaisent pas. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Il y a toujours eu une tendance à déformer certaines vérités de manière à justifier le péché. En Jude 4, je crois, il a dit que les gens transformaient la grâce de Dieu en dissolution. En Romains 6, Paul dit, que dirons-nous donc, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Puisqu'il y a la grâce, c'est qu'on peut continuer de commettre le péché. Non, ça, ce sont des déformations de l'enseignement. Et Paul dit que, oui, vous êtes libéré de la loi, cela ne veut pas dire que vous pouvez vous livrer à des convoitises charnelles, etc. Les devoirs moraux imposés par la loi sont résumés dans l'idée de l'amour du prochain. C'est ce que Paul dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me presse un peu, puisque le temps a presque fini. Versets 16 à 24. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont apposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ok. Ce ceux qui sont libérés par la loi, de la loi de Moïse, par la foi en Christ, sont toujours engagés dans un combat spirituel et moral. Avec l'aide de l'Esprit, ils luttent contre des péchés que la loi aussi condamnait. Et ils cultivent les vertus que la loi approuvait. Quand il dit marcher, le plus souvent, pas toujours, mais généralement, marcher dans le Nouveau Testament se réfère au comportement, à la conduite morale. Marcher selon l'Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 5, marcher selon l'Esprit, c'est s'affectionner aux choses de l'Esprit. Cela veut dire fixer son attention sur, se préoccuper de, s'attacher à ce que veut l'Esprit. Ça, c'est marcher selon l'Esprit. Il y a un conflit spirituel qui est continuel. Si vous voulez faire le bien, la chair s'y oppose. Si vous voulez faire le mal, l'Esprit de Dieu s'y oppose. La lutte aussi longtemps. Ça, c'est l'une des choses que, quand je pense au ciel, quand je pense à la fin de cette vie, l'une des choses les plus merveilleuses pour moi, c'est l'idée que cette lutte fatigante parfois aura pris fin. Plus de tentations, plus de péchés, plus de guerre. Conduit par l'Esprit, donc ce n'est ni l'idée d'être possédé comme par un démon où tu n'as plus de contrôle, tu es comme un robot pratiquement. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas, on ne parle pas d'un chuchotement à l'oreille, fais ceci, ne va pas là-bas, ainsi de suite. C'est l'instruction de la parole inspirée de Dieu avec l'aide fortifiante que l'Esprit de Dieu en nous nous apporte. Mais le contenu de ce que nous devons faire, le bien et le mal, nous apprenons à travers les Écritures. Ce n'est pas par des messages reçus directement par l'Esprit en nous. On doit se laisser conduire. Mais l'Esprit ne peut pas nous conduire si nous n'écoutons pas sa parole. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi, ce n'est pas que... ça veut dire tout simplement que ceux qui jouissent de cette liberté vis-à-vis de la loi sont ceux qui obéissent à l'Évangile, qui reçoivent le don de l'Esprit, qui se laissent conduire par l'Esprit. Non, on pourrait passer toute une heure ou deux heures ou trois heures sur les œuvres de la chair. On ne va pas le faire. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume. Ça, c'est la version courte. Les fruits de l'Esprit, ces qualités ne viennent pas sans effort, sans prière, sans soumission. Nous devons cultiver ces choses en nous, mais avec l'aide de Dieu. Paul dit aux Philippiens, travaillez à votre salut. Et puis dans le verset suivant, il dit, car c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous pour produire le vouloir et le faire. La loi n'est pas contre ces choses. La vie selon l'Esprit est en parfaite harmonie avec les exigences morales de l'ancienne loi. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Par la repentance et le baptême, nous avons renoncé au péché. Mais si nous ne sommes pas vigilants, la chair avec ses passions et ses désirs peut revenir à la vie en nous. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois pour toutes, je pense, n'est-ce pas? Oui, on doit crucifier la chair, on doit mettre à mort les actions du corps, comme Paul dit en Romains chapitre 8. Mais c'est continuel. OK. Maintenant, le dernier verset, tous les chrétiens doivent marcher dans l'unité en suivant les ordres d'un même Seigneur. Je n'ai pas le temps d'aller en détail, mais marcher, dans ces versets-là, ce n'est pas le même mot marcher qui est employé d'habitude. Ici, c'est marcher dans le sens de marcher comme des soldats qui marchent de manière coordonnée, ensemble, en rythme, etc., en suivant les ordres d'un même chef. C'est de cette manière que Paul est en train de parler.